Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour vous présenter ce journal de la radio des Nations Unies. Au menu, le Conseil de sécurité examine les réformes du secteur sécuritaire. UNICEF condamne les bombardements qui ont tué des enseignants au Yémen. Le HCR se félicite de l'accord franco-britannique sur Calais. L'ONU distribue des biens agricoles à quelques 2000 déplacés en RDC. Nous continuons notre hommage à l'aide humanitaire et enfin, nous reviendrons sur les attentes de la conférence sur le changement climatique prévue à Paris en novembre. Le Conseil de sécurité s'est réuni ce matin pour examiner les réformes du secteur sécuritaire et la mise en œuvre de la résolution 2151, résolution qui soutient que dites réformes sont indispensables pour instaurer une paix durable qui permette aux populations de se sentir en sécurité une fois que les conflits ont pris fin. La représentante spéciale du secrétaire général sur la violence et les conflits armés a pris la parole. Elle a exhorté les 15 à intégrer la question des violences sexuelles dans les réformes de façon systématique. Zeynab Bangoura, qui a souligné que son bureau menait des efforts importants pour que les États se responsabilisent de la question, sachant que leurs forces sécuritaires étaient souvent les auteurs de telles violations en temps de conflit. La représentante qui a constaté que ces efforts portaient leurs fruits.
Au cours des dernières années, nous avons signé des accords au niveau politique sous forme de communiqués conjoints avec les gouvernements de la République démocratique du Congo, de la Guinée, de la Somalie et du Soudan du Sud. Ces accords constituent la base de l'engagement en cours sur le plan stratégique et opérationnel pour la mise en œuvre concrète des engagements. L'équipe d'experts sur l'état de droit et la violence sexuelle dans les conflits soutient les gouvernements en apportant une aide technique et logistique afin de transformer ces accords de haut niveau politique en des activités et actions concrètes que les gouvernements doivent mener.
Au Yémen, 13 instituteurs et 4 enfants ont été tués mardi dans un raid aérien au nord de la capitale du pays, Sanaa. Le bombardement a été condamné par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance qui note que ces victimes ont payé le prix fort du conflit qui se poursuit dans le pays. Alpha Diallo.
L'UNICEF n'indique pas les auteurs de ce drame intervenu mardi à Amran, au nord de Sanaa. Ce bombardement aérien se serait produit alors que des instituteurs étaient réunis pour préparer les examens pour des centaines de milliers d'écoliers dont la scolarité a été perturbée par le conflit au Yémen. Et certains de ces gamins avaient d'ailleurs accompagné leurs parents à cette réunion. Selon l'UNICEF, 13 enseignants et 4 enfants ont finalement péri dans ce raid aérien mené au nord de la capitale yéménite, Sanaa. En outre, l'attaque a fait 20 blessés, dont un enfant. Une nouvelle escalade de la violence qui confirme la détérioration de la situation sur le terrain et le lourd tribut payé par les enfants. Hier déjà, l'UNICEF rappelait que 8 enfants sont tués ou gravement blessés en moyenne chaque jour au Yémen. Près de 400 ont déjà été tués et 600 blessés depuis 4 mois. Le conflit au Yémen a fait depuis mars dernier près de 4400 morts et des milliers de blessés selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé. En outre, 21 millions de personnes ont besoin d'aide ou de protection et 1,3 million de Yéménites ont été déplacés selon l'ONU. Alpha Diallo, Genève pour la Radio des Nations Unies.
Le commissaire des Nations Unies pour les réfugiés s'est félicité ce jeudi de la déclaration conjointe franco-britannique à propos de la situation à Calais ainsi que du plan d'action qui y est associé. Selon le HCR, nombre de personnes arrivées à Calais depuis l'Afghanistan, l'Érythrée, la Somalie, le Soudan et la Syrie pourraient être éligibles à la protection internationale. Le HCR salue notamment les mesures de protection humanitaire annoncées, comme l'explique son porte-parole William Spindler.
Il s'agit de cet effort conjoint entre les deux pays pour s'adresser à la situation à Calais qui, dans des jours récents, a eu un impact négatif sur les relations entre les deux pays et aussi sur le transport entre la France et la Grande-Bretagne. Nous sommes très reconnaissants des, en particulier, les mesures de protection et les mesures humanitaires annoncées parce qu'ils reconnaissent à la fois l'importance de la lutte contre le trafic d'êtres humains et l'exploitation des individus vulnérables, mais aussi reconnaître les droits à l'asile et à des conditions dignes de vie pour les réfugiés et demandeurs d'asile qui se trouvent à Calais.
a eu Uvira, à l'est de la République démocratique du Congo. Des opérations de lutte contre l'insécurité sont en cours. Le Conseil territorial de sécurité a été délocalisé pour le village de Mutarule-Katekama, dans la plaine de la Ruzizi. Objectif, mobiliser tout le monde pour la pacification de la plaine et pour la restauration de l'autorité de l'État. Les membres du Comité territorial de sécurité d'Uvira, y compris des autorités de la mission des Nations Unies pour le pays, ont effectué ce déplacement. La MONUSCO, qui a offert du matériel agricole et des équipements sportifs à la population retournée, estimée aujourd'hui à 2235 personnes. Reportage de Fiston Ngoma de Radio Kapi.
Aussitôt arrivé, casque bleu de la MONUSCO, policiers des Nations Unies, autorités territoriales d'Uvira, FRDC, éléments de la PNC et autres retournés se sont mis ensemble pour une séance des travaux d'assainissement. Ils ont désherbé les alentours de quelques maisons aux entrées des avenues. La MONUSCO a offert à cet effet 40 machettes et coupe-coupe et 10 bêches. Après ce signal fort, l'administrateur du territoire d'Uvira, Samuel Lunganga-Lenga, a invité les retournés à maintenir propre leur village et leurs habitations. Dans les échanges, les retournés ont exprimé plusieurs besoins pressants. Ils affirment que la localité n'est pas approvisionnée en eau potable. Ils ont témoigné que 4 à 5 familles vivent sous un même toit, tandis que d'autres retournés dorment à la belle étoile. Les maisons détruites, le centre de santé, l'école du village et le marché local ont besoin d'être réhabilités. La MONUSCO de son côté a annoncé que plusieurs projets à impact rapide seront financés à Mutarule. D'Uvira, Fistongo Mamayabala, Radio Okapi.
Nous continuons notre hommage aux humanitaires avec aujourd'hui le Comité international de secours, ou IRC. Cette organisation humanitaire aide les populations victimes d'oppression ou de conflits violents. Au Mali, l'IRC est arrivé dans le pays en avril 2012 suite à la crise alimentaire, sécuritaire et politique qui sévissait dans le pays. Explication de Boubacar Maïga, chef de projet d'éducation à Ménaka.
Dans le nord du Mali, des projets intégrés en WOSH, nutrition, protection et éducation, sont mis en œuvre dans les communautés dans lesquelles les conflits armés et le déplacement ont endommagé les centres de santé et les infrastructures d'eau et d'assainissement, limitant l'accès de la population à l'eau potable, à l'hygiène, ainsi que dans les communautés dans lesquelles les écoles ont été fermées suite aux craintes de la population par rapport aux groupes armés et au recrutement des enfants. Dans le sud et le centre du Mali, l'IRC implémente un projet intégré en nutrition, en relance économique, en protection et WOSH, où la population continue d'être exposée au risque d'insécurité alimentaire et de malnutrition.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Nous continuons de rendre hommage à tous ces acteurs de terrain humanitaire. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge entend délivrer un message de recueillement pour tous ces humanitaires tombés au champ d'honneur. Son secrétaire général El Hadj Assi a notamment pensé à tous ces humanitaires engagés dans des missions périlleuses, comme en Syrie ou sur le front du combat contre Ebola. Il est au micro d'Alpha Diallo.
Le message d'abord, c'est un message de recueillement pour tous ceux-là que nous avons perdus sur le champ de l'honneur, parce que c'est des gens qui sont investis et qui ont payé au plus fort prix donc leur engagement, leur courage au service de l'humanité. C'est également aussi un moment pour se rappeler de tous ceux-là qui continuent à accompagner les populations dans les situations les plus difficiles, dans les coins les plus reculés du monde. Et c'est le moment aussi de penser à nos volontaires du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui sont là-bas tout le temps, dans les communautés où ils vivent et dans ces mêmes communautés où ils travaillent. Les crises et les chocs arrivent, nous y trouvent. Ces crises s'estompent et nous y restons. Et c'est particulièrement de penser à nos volontaires en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria qui ont été en droite ligne de la réponse contre Ebola. Certains d'entre eux ont payé au plus fort prix. D'autres continuent de vivre avec les séquelles. Mais comme l'un d'entre eux me l'a toujours dit, si nous ne le faisons pas, qui d'autre va le faire? C'est le moment également aussi de penser à tous ces jeunes en Syrie, à Homs, à Damas, à Aleppo, qui, comme le volontaire guinéen, m'ont dit exactement la même chose. Nous sommes le Croissant Rouge. Si nous ne le faisons pas, qui d'autre va le faire?
Alors, les volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge sont plusieurs fronts. Mais quel enseignement tirez-vous surtout par rapport à la crise d'Ebola qui donne une nouvelle dimension au travail des humanitaires sur le terrain?
La crise d'Ebola révèle un certain nombre de choses. Il révèle que la confiance extrêmement importante. Il révèle également que le respect est extrêmement important. Et donc, c'est la raison pour laquelle il est important, tirant des leçons de la réponse à Ebola, de faire des promesses et de respecter ces promesses.
De quel type ?
Que nous nous engageons à renforcer vos structures de santé, on va les renforcer. Parce que si nous ne le faisons pas, nous n'avons aucune crédibilité le lendemain de venir et de dire les systèmes de santé sont faibles, c'est la raison pour laquelle nous avons ce genre de problème. C'est de dire également aussi que nous allons travailler avec les populations pour améliorer les conditions pour l'accès à l'eau et l'hygiène.
Mais peut-on dire qu'il y a un avant et un après Ebola pour tout travailleur humanitaire qui s'investit dans ce combat sur le terrain ?
Oui, il y a toujours en avant et après Ebola, parce que bon, c'est un choc qui nous a permis de comprendre qu'on ne peut pas faire les choses comme on le faisait tout le temps. Ce n'est pas une situation humanitaire comme toutes les autres. C'est la raison pour laquelle il est important de se rappeler. On ne doit jamais laisser les populations au moment où elles ont le plus besoin de nous. Et nous, en ce qui nous concerne comme travailleurs humanitaires, nous n'avons pas à y aller, nous n'avons pas à y quitter, parce que c'est là où nous appartenons et c'est là où nous vivons. Les leçons qu'on en tire, c'est que l'approche à court terme ne marchera plus. Il s'agira tout simplement de s'engager à plus ou moins long terme et à tisser donc les partenariats et les solidarités nécessaires qui nous permettront de résoudre des problèmes de manière durable.
Finalement, en tirant les leçons de toutes ces crises et surtout la crise Ebola, quelles sont les prédispositions requises pour travailler dans ce genre de mission et que diriez-vous à tous ces jeunes qui ont envie de s'investir sur le terrain ?
D'abord, pour dire aux jeunes que le service qu'on rend aux populations, c'est un service qu'on rend à soi-même parce qu'on y apprend, on sert son semblable. C'est aussi une possibilité de formation. C'est également aussi des opportunités d'engagement, donc à plus long terme et sur un champ beaucoup plus élargi. Donc, c'est une possibilité même de recruter davantage de jeunes, les accompagner, leur pouvoir une formation, leur donner également aussi des moyens logistiques et financiers là où c'est possible et des opportunités futures pour être de vrais acteurs de développement au service de leur communauté et de leur nation.
Presque 100 jours de la grande conférence des parties convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à Paris, la radio des Nations Unies s'est entretenue avec le premier secrétaire général adjoint des Nations Unies sur le changement climatique, Yanos Pastor. Au micro de Tsike Schifera, où il explique ses attentes durant cette conférence, dont les enjeux sont cruciaux. On l'écoute.
Bon, j'attends qu'il y aura un bon accord qui va sortir de la réunion de Paris. Il reste 100 jours. C'est tout. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais il reste encore beaucoup de négociations à faire. Il y avait beaucoup de discussions préparatoires jusqu'à maintenant, mais les vraies négociations vont justement commencer, donc il ne reste pas beaucoup de temps. Il reste beaucoup de sujets qu'on doit encore résoudre. Mais en même temps, on peut dire qu'on peut être positif et optimiste parce que les gouvernements sont prêts, ils veulent un accord et ils vont faire le nécessaire pour arriver à un résultat.
Un accord sur quoi exactement ?
Un accord sur le changement climatique, ça veut dire qu'on va devoir présenter un paquet à Paris, un paquet qui contient plusieurs choses. D'abord, il y aura ce que les pays peuvent faire aujourd'hui. Ça ne suffit pas pour les objectifs, mais nous avons un objectif de ne pas dépasser 2 degrés Celsius de changement climatique avant la fin de ce siècle. Et ce que les pays sont prêts à faire aujourd'hui, ça ne suffit pas. Donc il faut quelque chose en plus. Et cette quelque chose en plus, c'est l'accord même, un mécanisme de revue et de monitoring pour voir quel est l'effet de tout ce que les pays peuvent faire aujourd'hui sur l'environnement, sur l'objectif de 2 degrés, et qu'est-ce qu'ils doivent encore faire et avec quelle fréquence. Est-ce que c'est chaque 5 ans ou chaque 10 ans qu'il faut que les pays reviennent et décident maintenant il faut augmenter l'ambition. Donc la deuxième partie, c'est justement ce mécanisme de revue et de décision. Troisièmement, il faut financement. Il faut le financement dans chaque pays, mais il faut en plus penser aux pays en développement qui, eux, ont des besoins particuliers dans ce domaine-là.
Au stade où nous en sommes, peut-on vraiment limiter l'impact des activités humaines sur le changement climatique quand on sait que la population sur Terre va atteindre tout de même plus de 9 milliards d'ici 45 ans?
Ça va être plutôt 10 ou 11 milliards maintenant avec les plus récentes études. Mais c'est tout à fait possible. Il y a des études de GIEC, par exemple, de groupe intergouvernemental sur les effets du changement climatique. Ils ont montré que c'est tout à fait possible. Il y a des technologies, il y a les systèmes d'organisation dans le monde qui c'est possible. Mais entre possible et la réalité, il reste encore beaucoup de choses à faire. Donc ça reste possible, mais il faut agir. Il faut agir et c'est pour cela qu'il nous faut cet accord. Parce que l'accord, on espère, va envoyer un signal dans le marché pour le gouvernement en disant que oui, on va dans une certaine direction de bas carbone. Comme ça, le marché peut évoluer, développer des technologies qui sont nécessaires et avoir une réponse.
Est-ce que selon vous, il y a une limite dans le temps aussi, en matière d'action?
Oui, parce que plus on attend, plus difficile ça devient. Les experts nous disent qu'il faut plus ou moins arriver à des émissions maximales vers 2020. C'est juste 5 ans d'ici. Après ça, il faut réduire très, très vite les émissions pour qu'on puisse arriver à cet objectif de 2 degrés.
Et c'est avec Janos Pastor que se referme ce journal de la Radio des Nations Unies. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.